Il fait noir. L'obscurité impose au regard un paysage en perles de ténèbres. Le chaos, en pleine transe, savoure le bonheur de faire feu de tout destin. Il fait noir quand ce n'est pas encore la nuit noire et les ténèbres n'y sont pour rien.
Pascal Paradou.
Un petit livre, mais qui est le signe d'un grand poète, dans la collection de poche Poésie Gallimard, sort un texte, ou plutôt trois, de Gabriel Mouenet Okunji. L'âme blessée d'un éléphant noir, suivi de Stèle du point du jour et de Apprendre à donner, apprendre à recevoir. Trois textes publiés initialement chez William Blake & Co., maison d'édition bordelaise de haute tenue. Mais cela est logique, car notre invité aujourd'hui est bordelais. Bonjour Gabriel Mouenet Okunji.
Bonjour Pascal.
Est-ce qu'on peut dire cela, que vous êtes bordelais ?
Oui, je suis bordelais, je l'ai écrit. J'appartiens à ces trois lieux. Ma terre d'Okondo, là où je suis né. La terre de Brazzaville, où je n'ai été que de passage, donc le Congo. Et la terre girondine, où j'ai érigé une partie de mon identité. L'équilibre en moi réside dans ces deux lieux.
Si je vous dis « je suis », si je vous demande de dire « je suis », vous dites donc ça. « Je suis de ces » trois lieux.
Oui, tout à fait. Parce que l'être humain, dans son cheminement, dans son petit sentier devant l'immense route de la vie, parcourt des espaces qui lui sont soit imposés ou soit de son choix. Et il lui arrive d'appartenir à ces lieux ou de ne pas appartenir du tout. Pour ma part, je suis sur la terre girondine depuis de longues années et les Girondins m'ont adopté, je les ai adoptés. En Gironde, il y a une langue qui s'appelle l'occitan. Je fais partie des écrivains occitans, bien que ne parlant pas la langue occitane, ça peut paraître paradoxal. J'ai été publié, traduit plusieurs fois en occitan. À côté, il y a des Basques qui m'ont aussi traduit en basque. Ben, je me dis... qui suis-je pour ne pas appartenir dans ce bain qui m'accueille ?
Qu'est-ce qui fait une identité, selon vous ? C'est une langue ? C'est un lieu ? C'est un paysage ?
L'identité est multiple. Ça peut être tout cela à la fois. Quand on dit identité, il y a l'identité à la fois personnelle, il y a l'identité du lieu d'appartenance, il y a l'identité de la culture à laquelle on adhère, il y a l'identité du lieu professionnel, il y a l'identité du cercle des écrivains, etc. etc. L'une des facettes de mon identité réside dans cet homme en moi qui, ayant quitté la terre d'Okondo, j'insiste beaucoup sur la terre d'Okondo, c'est mon petit village, et j'ai toujours écrit à la beauté majeure et à la beauté concrète. Et c'est de ce village qu'est née toute la sensibilité que je porte. Tout ce qui charrie, la sensibilité qui charrie dans mes veines et dans mes neurones, naît de là. Ensuite, il y a le Congo, bien évidemment, que je découvre avec l'école où je quitte mon village pour venir à Brazzaville à l'époque de la Révolution. On était des marxistes, léninistes. Bon, je découvre ça aussi, je découvre d'autres paysages. Et malgré la part de l'humain, de l'élève en moi qui doit répondre au désir social qu'est celui de faire des études, d'appartenir, j'ai toujours eu une soif ténue, une faim d'écrire de la poésie. Pourquoi la poésie ? Parce que tout petit, j'entendais le chant. Le chant que me chantaient les anciens autour de moi et qui a bercé, donc qui a fait germer cette lumière qui germe de temps en temps dans mes cellules. Et alors, il fallait l'écrire. Or, pour l'écrire, je ne pouvais l'écrire que dans la langue française. Mais cette langue française, qui a une sœur, qu'est la langue tégué. Donc voilà, c'est tout cela qui fonde mon identité, c'est très complexe.
Gabriel Mouenet Okunji, cela veut dire que quand vous écrivez aujourd'hui,
oui,
à Bordeaux, à Paris ou ailleurs, enfin en Europe, vous écrivez quand même avec les paysages, les sons, le chant, les sensations du village d'Okondo.
Oui, c'est ça. Souvent, on parle d'inspiration. L'écriture, pour moi, vient parfois par effraction, d'une rencontre, d'un mot, d'une lecture, d'un chant. Mais cette rencontre, cet échange peut venir en langue tégué, comme elle peut venir en langue française, ou ça peut être tout simplement une image. Mais si elle me vient en langue tégué, ben, je convoque la langue française en disant comment arriver à porter ce... Donc, c'est la langue tégué et la langue française qui me nourrissent. Quand l'une donne, l'autre reçoit. Quand l'une reçoit, l'autre invoque. Quand l'autre invoque, l'autre évoque. J'écris donc dans cet équilibre-là, c'est deux langues sans ce que j'appelle mes deux langues maternelles.
Dans ce recueil dont on va parler, L'âme blessée d'un éléphant noir, il y a quelques mots, quelques strophes en langue tégué.
Oui, oui.
Donc vous la transcrivez, même si l'essentiel est écrit en français.
L'essentiel est écrit en français, mais il m'arrive d'échouer, de trouver son équivalent en langue française. Alors je me dis, puisque c'est par là qu'il est venu et que je me mentirais à moi-même si je trouvais une substitution qui ne correspond pas à la part émotionnelle que j'aimerais faire passer, ben je la laisse en langue tégué.
Vous avez la nostalgie de cette enfance, de ces paysages, de ce village, ou pas du tout?
Point du tout.
Point du tout.
La nostalgie, c'est la brûlure du souvenir. Non, il n'y a pas de nostalgie. Il y a un manque en moi de ne pas, même à mon grand âge, encore réussi à donner toute la part de richesse que j'ai cueillie, que l'homme a donnée. Il y avait un océan de richesse émotionnelle, de bain, et que je peine à ce jour à pouvoir donner aux autres, fût-il des Russes, des Suisses, des Finlandais, que sais-je encore.
Alors, préparant cette émission, Gabriel Mouenet-Okunji, j'ai voulu savoir où était placé très précisément sur la carte Okondo. Donc, je suis allé sur Wikipédia, enfin sur Internet. Et alors, j'ai vu apparaître en premier qu'il y avait un village au Pays basque espagnol qui porte le même nom.
C'est cela.
Hein, ah, vous le saviez.
Merci. Ben oui. Je peine parce qu'il y a 5 de mes ouvrages qui ont été traduits en espagnol. Mon rêve est un jour d'aller dans ce village Okondo, rencontrer le maire, dire voilà, à partir d'aujourd'hui, il n'y a plus Okondo au Congo, Okondo en Espagne. C'est devenu un village commun, faisant un pont pour faire passer des deux rives. Je garde ce rêve en moi, j'espère qu'un jour il se réalisera.
Ça doit être possible quand même. En tout cas, de l'Occitanie et du Pays Basque aussi, de toute cette partie du sud de la France, vous dites que s'il y a une proximité, c'est parce qu'il y a une sensibilité commune entre vous et eux à la parole. Parce
que la parole,
c'est vrai que la parole est importante au Pays Basque ou en Occitanie. Mm-hmm. C'est l'origine des troubadours, par exemple.
C'est ça.
Et vous, la parole, c'est aussi essentiel.
Oui, mais nous devons beaucoup aux troubadours. Toute la poésie européenne, elle est fondée sur l'héritage des troubadours.
Mais pas vous.
Mais moi, je suis, mais bien sûr, je suis un enfant de la négritude. J'ai l'audace d'écrire m'est venue des pères de la négritude, bien évidemment d'autres poètes, mais l'élan vital est venu des grands poètes que j'ai découverts ici lors de mes premières années de médecine, dans les années 83-84, lorsque il y avait là dans le ciel immense les astres qui s'appelaient Isidore Ducasse, Breton, Guillaume Apollinaire, mais surtout le père du poème qui s'appelle Lettre à Lamartine, Alfred de Musset. Cet homme-là m'a redonné la conviction qu'effectivement on pouvait écrire. Après les surréalistes qui avaient quelque peu malmené la part émotionnelle dans le poème, qu'on pouvait reconquérir le poème avec cette part d'émotion nécessaire. Mais ce sont eux qui m'apportent ça. Alors je suis donc leur élève. Et alors je suis donc un des descendants des troubadours.
De la parole et de la poésie, deux mots qui vont résonner tout au long de cette émission, grâce à vous, Gabriel Mouenet-Okunji. Après quelques notes de guitare, celle de Ours, le spleen d'une vie sublime, c'est le titre de l'album et de la chanson.
Rien que le spleen d'une vie sublime, juste le spleen d'une vie sublime. Sublime. Rien
Gabriel Moeneo-Kunji, nous parlions des noms juste avant d'écouter Ours. Il y a ceux des lieux, on a parlé du village Okondo. Et il y a aussi le nom des hommes, le nom est l'autre visage de l'être,
oui.
Écrivez-vous. Et en l'occurrence, votre nom en langue bantou, Okunji, a un sens, ça veut dire chef. Vous pouvez me contredire hein, si je dis n'importe
c'est
quoi.
C'est tout à fait cela, c'est tout à fait cela.
Et Moené, c'est le souffle.
Oui. Moené, non, c'est le porteur de la spiritualité d'un peuple. Ce n'est pas mon nom de naissance. Ce nom, je l'ai hérité lorsque j'avais 9 ans, à la veille de la mort de mon père. Mais chez moi, on dit lorsque le soleil de mon père a perçu le crépuscule, il était temps pour lui de transmettre. Donc j'avais 9 ans lorsque je joue avec des amis, lorsque j'entends « Gabriel, ton papa t'appelle ». Et moi, j'arrive transpirant, papa, on me dit, assieds-toi là. Ah, très bien. On m'a fait asseoir à côté de mon père. Je crois que c'est la première fois que j'étais entre les jambes de mon père sur une natte. On m'a dit, assieds-toi. Ah, voilà. En bref, ce jour-là, alors que j'avais 9 ans, mon père m'a choisi parmi ses 10 enfants à être le père de son père, l'oncle de son oncle, l'âme de son âme, l'ascendant de sa descendante, donc le porteur de l'héritage primordial qu'il détenait, c'est le titre de Moené. Donc on a fait de moi un Moené et à partir de là, tout le monde m'appelait Moené jusqu'à ce jour quand je suis sur ma terre, Gabriel Okunji disparaît et c'est Moené. Et c'est ça qui m'a marqué, l'un des événements qui a marqué ma vie, mon enfance et jusqu'à ce jour.
Donc votre nom dit une filiation à une famille,
oui.
Et plus largement à une culture. Et Gabriel, pourquoi Gabriel? C'est l'ange Gabriel, c'est celui qui annonce?
Ça doit être cela, mais vous savez, Pascal, les noms chez nous à cette époque-là, ce sont des noms d'emprunt. C'était des noms que l'on habillait sans savoir la signification réelle. Au village, quand le père Paul est arrivé, c'est un père blanc qui arrivait là, il était hors de question que mes aînés, par exemple, qui portaient des noms traditionnels, puissent s'appeler encore Okunji, Moussa ou Okunji. Non, il fallait un prénom. Et mon père nous a habillés de Marie, Gabriel, Paul, Nicolas, ainsi de suite.
En tout cas, cela fait une destinée, ces trois noms, les uns à côté des autres. On a l'impression que vous n'aviez pas d'autre choix avec de tels noms que d'être poète?
Très certainement, mais j'accepte cette part d'analyse. Lorsque je fais mon introspection, il m'arrive d'y penser, mais ça serait me regarder. Mais oui, c'est vrai que comment se fait-il que mon père m'ayant choisi aux fonctions de Moené, je sois le seul à avoir fait des études, je sois le seul à pouvoir porter la part de l'écriture et à porter ce chant sans défaillir. J'aurais pu aller sur d'autres domaines, le roman, etc. Mais j'ai toujours dit non, il faut d'abord témoigner de cette part de l'héritage. Donc, il m'a donné un vrai sacerdoce.
Le chant, donc, la parole.
Oui.
J'aimerais que vous nous lisiez un autre extrait. On vous a entendu au tout début de l'émission, un extrait de Stèle du Point du Jour. Pour comprendre un peu, c'est un dialogue entre elle et lui,
oui.
Mère Empili,
oui.
Et Père Pampou.
Oui, c'est ça. Alors, c'est Pampou qui parle à Empili. Il lui dit « La parole de l'initié est semence de l'initiation. Mais il n'en demeure pas moins que l'initié est un homme ordinaire. » Empili lui dit Un homme ordinaire, qui sait d'évidence que derrière le silence, il y a une parole. Et derrière cette parole, un autre silence qui est encore parole. Pampou lui dit, l'initié est un homme dont la mémoire veille la parole. Néanmoins, c'est au silence qu'il consacre un signe d'admiration. Empili lui dit, « Parmi tous les langages disponibles, les initiés le savent. Le silence est du côté de ceux qui honorent l'énigme. » Pampou lui dit, « Et qu'est-ce que l'énigme ?» dit Mère Empili. Empili lui dit, « L'énigme est la part du ciel et de la terre qui s'offre partout au regard et pour laquelle l'homme ignore quoi faire de sa présence. »
Extrait de Stèle du Point du Jour, qui est dans ce recueil qui vient de paraître chez Gallimard, Gabriel Mouenéo-Goudji. La poésie philosophe avec vous.
Je ne sais pas ce que c'est que la philosophie, mais j'écris ce qui me vient lorsque je suis face aux mots, face à ce ressouvenir de ce que j'ai appris. Ben, je cueille et je le transmets comme tel. Si ma poésie est philosophe, les philosophes étaient Empili et Pampou. Je ne suis que leur bouche, je ne suis que leur traducteur.
Alors, qui sont-ils, justement? De Père Pampou, vous dites qu'il est votre maître.
Oui, parce que Pampou était un homme, que l'on dit homme, parce qu'il était comme vous et moi. Mais Pampou avait quelque chose de plus. Lorsqu'il était là, on l'appelait le colonel de la pensée. Il faisait remuer les arbres rien qu'à la cadence de son pas. Quand Pampou était là, on avait l'impression que le monde s'arrêtait pour que toute la lumière, tout le soleil soit destiné sur lui. Pampou savait dire le conte, il savait chanter le proverbe, il pleurait l'énigme et dansait à la lumière de la parole. Un tel homme, lorsqu'on l'a rencontré, on n'est plus tout à fait le même toute sa vie.
Et donc, il est toujours là en vous, à travers vous, dans votre voix, dans vos mots.
Mm-hmm. Il est toujours là en moi. Le jour où il est mort, je me suis mis, comme tout homme ordinaire, à pleurer. Et dans la nuit, il m'a apparu. Je suis psychologue de métier, donc lorsque je dis ça, ne dites pas qu'on va l'amener à Sainte-Anne, ce monsieur. Pampou m'est apparu pour me dire non. Un homme ne pleure pas. Si tu me pleures, tu aurais perdu une partie de ma mémoire. Honore ma mémoire, honore moi pour que demain, ce que j'ai dit en toi puisse être partagé avec ceux que tu rencontreras le long de ton chemin.
C'est presque une mission.
Une forte mission et oui, qui parfois est difficile à contenir.
Et Mère Empili?
Maman Empili, oui, c'est elle. C'était une conteuse, Maman Empili.
Tout ce que vous savez vient d'elle,
oui,
vous.
Oui. Elle avait le don magique de la parole. C'était la grande sœur de ma mère, parce qu'à l'époque, quand on était enfant, l'oncle maternel, parce que au Congo, je suis d'une lignée matrilinéaire. Les enfants appartiennent à la maman et à l'oncle maternel. Et quand on est enfant, c'est l'oncle maternel qui régule le passage des enfants, dit « Tiens, ces enfants-là, cette année, vont aller voir telle mère, voir tel oncle, voir tel... » Et lorsque j'arrive chez cette femme... Elle m'a redonné la capacité de respirer parce que c'était une grande conteuse qui avait le don magique du verbe.
Et elle dit notamment l'importance des arbres.
Oui. Bah,
c'est vous qui me le dites, hein. Je ne le sais pas, je ne l'ai pas rencontré. Mais que dit le poète que vous êtes sur la maltraitance de la nature par l'homme ? Alors, je pense aux forêts, mais je peux penser aussi à l'océan, aux marais de plastique qui recouvrent les sols dans certains pays, d'Europe ou d'Afrique, aux pollutions des villes partout dans le monde. Qu'est-ce que vous dites, vous, le poète ?
Alors, le poète en moi n'a que... Le poète n'a rien à dire au monde, parce que le poète, ce n'est pas un homme de discours. Le poète, il exprime le peu qui reste quand tout a été exprimé. Le poète est l'homme qui parle à la parole de l'homme. Mais la parole de l'homme à laquelle je peux m'adresser, et c'est de leur dire que n'oublions pas, les forêts précèdent l'homme. Et lorsque l'homme arrive, tout... Et donc, c'est à nous de nous ressouvenir qu'il n'y a pas de différence. Je l'ai écrit dans un poème, la place commune qu'il y a entre l'homme, l'arbre et l'animal. Je pourrais lire même un petit extrait, si vous voulez. Je dis ceci, le temps enseigne au temps que l'homme, l'animal et l'arbre partagent ta part égale, les mêmes secrets, la même mortalité, le même rêve, les mêmes énigmes, la même dignité de l'âme. Ainsi de l'arbre, de l'homme et de l'animal, nul ne possède le monopole du plus grand numérateur. Le temps enseigne au temps que le monde entier repose sur les genoux d'une fourmi. Et lorsque le poète a dit ça, je pense qu'il a dit l'essentiel à l'homme qui sait l'entendre de l'entendre, à l'homme qui ne saura pas l'entendre, c'est peut-être sa liberté aussi de ne pas l'entendre.
Donc vous voyez que la poésie peut dire des choses.
Oui.
Au monde, aux gens en tout cas, aux individus. Même si c'est un homme ordinaire, le poète, il est dans un endroit d'observation, de sensibilité du monde qui lui permet d'avoir un autre regard qui peut aider. Vous dites dans l'introduction de L'âme blessée d'un éléphant noir que la poésie permet de se lever malgré la blessure.
Malgré la blessure, oui. Nous n'avons que ça, le chant du poème, pour nous relever malgré la blessure, malgré les dénivellations de l'existence, poursuivre le chemin. La poésie a cette force-là. Mais seulement, nous sommes dans un monde de vacarme, de bruit, de discours, de logos, qui empêche l'homme de pouvoir cueillir cette part de lumière nécessaire qui lui permette encore d'apprendre à être homme. C'est là que je dis, le poète n'a que ce chant minuscule. Mais est-ce qu'il est entendu ? Ça, c'est une vaste question.
Vous dites aussi que la poésie permet à l'homme de faire confiance en sa fragilité.
Oui.
Je trouve ça absolument magnifique.
Oui, parce que la fragilité est inhérente à tout vivant. L'équilibre de l'homme réside justement au lieu de sa fragilité. J'ai écrit dans un texte en disant que la vie n'est pas un don, elle est une offrande. Une offrande qui chaque matin renouvelle ses énigmes afin qu'aucun humain ne puisse la dominer. Donc, nous ne pourrons jamais dominer la vie. Nous ne savons même pas exactement c'est quoi la vie. C'est pour cela que qui le sait se doit d'avoir cette part de vigilance nécessaire parce que, au final, nous avons cette fragilité en nous qu'il nous faut accepter en tant que tel.
Et c'est ce qui est le plus séduisant chez l'être vivant.
Tout à fait.
Gabriel Wené Okundji, j'aimerais entendre encore votre voix dans un autre poème.
La panthère va mourir de sa propre mort et la mort n'a pas d'héritier. Saison haut, saison pluvieuse de larmes éprouvées dans le feu des amours inconnus, un volcan ira s'évanouir en silence, voix morte dans l'orbite d'une étoile, totem flambé au sang du sacrifice. Au commencement, il y aura la terre et l'air et l'eau et le souffle pour que germe au croisement des chemins un second mystère en sa vérité. Il y aura un ciel de larmes dans les empreintes du soleil. Les étoiles chanteront des louanges à la lune afin que naisse du récit de la panthère l'éclat unique du signe de l'existence.
Extrait de L'âme blessée d'un éléphant noir. Gabriel Moyne Okunji, à quoi renvoie cette image de la panthère dans votre univers et même cet éléphant noir qui donne le titre à votre recueil?
Le problème de la question, c'est toujours sa réponse. Et toute question n'appelle pas à réponse, n'est-ce pas? Alors, bon.
Non, mais vous avez le droit de cultiver le mystère aussi. On n'a pas à tout comprendre.
C'est ça, c'est ça.
L'obscurité, c'est formidable parfois.
Oui, tout à fait, l'obscurité, c'est formidable. Mais des fois, on se dit, tiens, il a fait tous ces kilomètres de Bordeaux jusqu'à RFI pour venir nous dire qu'il ne répond pas aux questions. Non, les Moinais, le totem des Moinais, c'est la panthère. Et dans toute l'Afrique centrale, du moins, ce sont des terres, donc ce qu'on appelle la panthère. Il y a beaucoup de chefferies, beaucoup de spiritualité se basent sur la panthère. Et la panthère, donc, on a vu chez certains présidents à l'époque, les Mobutu, hein, qui avaient...
une peau de panthère.
Voilà, et beaucoup de présidents tanzaniens qui sont là toujours entourés. Et nous, les Moinais, c'est aussi la panthère. Et du reste, le mot Congo signifie... pays ou sol de la panthère, Congo. Dans différentes langues congolaises, Ko, c'est le lieu, Ngo, c'est la panthère. Ça peut être Ko, Kwa, Kwa, Kwe, Ngo, Kungo. En fait, Congo, c'est la terre de la panthère. Et Léopold Sédar Senghor, qui n'était pas congolais du tout, lorsqu'il est venu au Congo, il entend ça. Il a écrit un poème magnifique là-dessus. Et beaucoup de Congolais, parfois, apprennent par le poème de Senghor le nom originelle de leur pays.
Donc c'est une poésie très savante en fait.
Très savante.
Et sensuelle.
Sensuelle, oui, parce que ceux qui m'ont donné à dire ces mots ne savaient pas lire et écrire en Pélé et en Pampo dont on a parlé. Et lorsque j'écris, mon souci premier est de me dire, est-ce que celui qui est avec moi, je le fais lire à ma secrétaire au travail, je le fais lire aux amis qui ne sont pas du tout dans la littérature pour qu'ils me disent, oui, est-ce que ça leur parle? C'est en cela. Si un jour on me dit ta poésie, qui est certes difficile parce qu'il y a beaucoup d'énigmes, mais je n'aimerais pas que ce soit une poésie intellectuelle. Et si un jour ça l'est, c'est que j'aurais échoué dans ma tentative de transmission.
Quelles conditions vous faut-il pour écrire? Est-ce que vous êtes un poète de l'impulsion? Est-ce que c'est un art quotidien, la poésie, chez vous?
Elle a été un art quotidien. Je me réveillais tous les matins à 5 heures du matin. À l'époque, je mettais même le réveil pour travailler parce qu'elle m'habitait à un tel point que... Et puis, petit à petit, avec le vieillissement, je n'écris plus tous les jours. L'écriture, elle est toujours là, mais la part de l'impulsion, de l'aspect volcanique du mot tend à s'estomper pour laisser place à des termes, à des moments d'écriture beaucoup plus paisibles.
Mais elle ne pourra pas se taire, la poésie en vous.
Non, j'espère qu'elle ne pourra pas se taire, sinon à quoi aurait servi que je sois de ce monde?
Merci Gabriel Moyne Okunji. L'âme blessée d'un éléphant noir est publiée dans la collection de poche Poésie Gallimard. Et je disais tout à l'heure que c'est la marque des grands poètes. Bah, il suffit de citer quelques auteurs publiés dans cette collection. René de Pestre, André Chédid, Philippe Jacoté, Yves Bonnefoy, mais aussi Rimbaud, Verlaine, Virgile. On fait pas mieux. Merci beaucoup. De vive voix, Pascal Paradou à la présentation, programmation Cécile Lavolo, Laura Pinto à la réalisation. Et bien sûr, vous pouvez nous réécouter sur rfi.fr. Thank you.